Ils sont malades.
C'est le seul diagnostic.
Vraiment malades.
Donc j'ai connu le ver solitaire, mais aussi le ver solidaire.
Chaque lundi, ils se regroupent dans leur quartier général à Roubaix. Et ils enregistrent une émission de radio pour propager leurs bonnes paroles et venir en aide aux gens qui sont comme eux. Dans le milieu, on les appelle...
Les tatouages.
Vous allez maintenant entendre leur dernière émission.
On avait dit sérieux, les filles,
là. C'est posant des questions.
Bonjour et bienvenue à l'émission 293 des Entonnoirs, avec un programme chargé aujourd'hui. Présenté tout de suite par Johan.
Alors oui, aujourd'hui on est beaucoup, on va avoir des invités, de la musique, tout ça. Et on va commencer avec Roger Lucien qui nous a préparé quelque chose, qui va nous faire dans l'émission. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Roger Lucien ?
Oui, bonjour. Aujourd'hui, dans ma rubrique, je vais vous parler de l'histoire. Et cette histoire est intitulée « Quand l'Afrique libérait la France ».
Ensuite, Olivia, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui ?
Alors, on aura un poème de Bruno.
Bruno, qu'est-ce que tu...
Oui, crise aiguë, et comme le programme est chargé, j'essaierai de ne pas être trop lourd. Voilà.
Ensuite, on aura une petite pause musicale hyper détaillée par Florent.
Ouais, vous parlez de Lionel Richie et de sa biographie et discographie.
Voilà. Bon, ensuite, moi, je suppléerai... Non, je sais pas comment on dit.
Je suppléerai aussi.
Suppléerai Margot dans la chronique santé, sur une chronique sur les lobbies pharmaceutiques. Totalement pas partisan, bien sûr. Et ensuite, on fera une actualité sur les gens qui ont l'idée de s'immoler par le feu,
oui,
en France, ouais, et en Espagne.
Est-ce que tu vas parler du problème du phénomène des flambeurs ? Non, c'est...
Pourquoi pas ? Je pense qu'on a atteint la liberté pour en parler. Ensuite, il y a Brahim qui nous a préparé autre chose.
C'est le film
Gangster.
Squad, alors que c'est un film policier.
Mais ce n'est pas tout dans notre émission. On a encore quelque chose. On a une invitée aujourd'hui. Et c'est même tout de suite, maintenant, notre invité. Je laisse la parole à Bruno qui va introduire notre invité qui s'appelle Christine Gabart.
Bonjour Christine. Bonjour, tout d'abord, on m'a demandé de présenter, enfin de vous présenter parce que j'ai vu le spectacle mercredi, donc il y a 9 jours, donc à mercredi, je ne sais plus la date, à la condition publique à 19h, où il y avait le portrait de 3 femmes avec un accompagnement musical de leur show qu'on a reçu, comment dire, aux Entonnoirs, et qui m'a demandé fort gentiment de participer à ce spectacle en tant que figurant acteur, et leur show à qui j'ai noué des relations d'amitié. Et donc je l'ai retrouvé, et puis j'ai vu le spectacle. C'est le portrait de 3 femmes plus ou moins émancipées de la fin du 19e siècle. Ça existait, les femmes émancipées, mais c'était pas du tout ébruité, pour des raisons, à mon avis, on va s'interroger pourquoi, vite fait. Hein. Les femmes sont là pour le dire aussi, je crois. Et donc, une rapide présentation, et puis voilà quoi. Et je voudrais dire qu'après ce que j'ai vu, c'est le premier jet d'un projet. Voilà.
Oui, en fait, je voulais juste préciser un petit peu parce que c'est pas vraiment un spectacle, en fait, ce qu'on a fait. Ce que vous avez vu mercredi, c'est une phase de travail. On travaille le spectacle. La création est prévue l'année prochaine, enfin, en fin 2013, début 2014. Et donc là, on fait des sessions de travail qu'on est en train de faire ici en ce moment à la condition publique. Et dans ce cadre-là, on a préparé une lecture des textes pour faire entendre les textes sur lesquels on travaille, en fait. Voilà. Donc mercredi, c'était dans un contexte particulier parce qu'on était dans une installation qui s'appelle Les Termes de l'Amicale de Production, c'est ça. On s'est installé dans cette installation, si je puis dire, et on a mis en écoute nos textes. Voilà, avec les 4 personnes qui seront sur le plateau au moment de la création, c'est-à-dire 3 comédiennes et Laure Chaillot à la musique. Voilà. Donc c'est important parce que c'est vraiment une phase de travail. Ce sont pas vraiment des portraits, en fait. Le travail n'est pas, mais c'est pas, c'est pas. grave, hein, je veux dire, mais c'est que le, là, dans la lecture, on peut penser ça, effectivement, que ce sont des portraits, parce qu'on, ce qu'on voulait faire essentiellement là, c'était de faire entendre leur voix, en faire entendre leur texte, leur écriture et un petit peu des bribes de leur vie, quoi. D'accord. Mais le travail qu'on fait vraiment, c'est un travail sur, sur les femmes, parce que j'ai choisi trois femmes, c'est pas trois portraits. J'ai choisi aussi de prendre trois jeunes comédiennes, et ce qui m'intéresse, c'est moi, c'est la rencontre entre ces trois jeunes comédiennes qui ont 20 ans aujourd'hui, au début du 21e siècle, avec trois femmes du début du 20e siècle. Donc un siècle les sépare. Et ce qu'elles disent, ce qu'elles disaient il y a un siècle, comment ça résonne dans ces trois jeunes comédiennes? Qu'est-ce que ça leur, comment ça leur parle aujourd'hui? Comment ça leur, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Qu'est-ce qu'elles veulent nous porter de ces trois femmes-là? Et moi aussi, j'ai envie de, enfin, moi, elles résonnent en moi, mais moi, je suis pas de la même génération, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec Laure Chaillou, qui elle amène un autre regard, qui est un peu d'une autre génération et qui en plus le traduit différemment puisqu'elle, elle le dit avec la musique. Elle le dit. Le travail qu'on fait, c'est Que font les textes sur nous? Que font ce qu'elles ont écrit? Qu'est-ce que ça nous donne? Comment ça nous bouge? Comment ça nous nourrit? Comment ça nous provoque? Ou des fois ça nous fait rien? Ou des fois ça nous met en colère? Ou des fois ça nous, voilà, qu'est-ce que ça nous fait? Et de le dire, parce que j'ai envie aussi qu'on entende ce qui se passait il y a un siècle. C'est assez intéressant de faire le parallèle. Comment ça résonne aussi? Comment ça va résonner dans le public? Voilà. Aujourd'hui.
Mais vous êtes connu comment? Cette troupe, elle date de quand en fait, hein?
Les Pâquerettes en fait sont créées depuis 10 ans. On a fait le premier spectacle en 2000, donc ça fait un peu plus, ça fait 12 ans, j'ai toujours 10 ans, mais en fait c'est 12 ans maintenant. Et voilà, après les personnes qui sont là sur à chaque création en fait, je réunis des équipes différentes.
Ça fait combien de temps que vous faites du spectacle et ça dure combien? Combien de jours et combien de semaines avec soit des enfants ou soit des acteurs? D'accord. Du film.
Ok. Alors, depuis combien de temps je fais du théâtre? C'est la première question. Alors, 80, depuis les années 90. Oui, j'ai commencé assez tard parce que j'ai fait la fac avant, j'ai fait autre chose. J'ai fait des études de psychomotricité, de sociologie, et ensuite j'ai vraiment pris la voie du théâtre, parce que ce qui m'intéresse moi en premier, c'est le mouvement, c'est le corps en fait. Donc c'est depuis les années 90 en fait, mais la compagnie en elle-même, je l'ai créée en 2000, donc voilà, depuis 12 ans. Et sinon, le temps que dure le travail, c'est quoi que la deuxième question, c'était ça dépend en fait des créations. Et quand, par exemple, là, le travail qu'on fait sur ce spectacle qui s'appelle Mon Chant d'Extase, qui sera créé donc fin 2013, on y travaille depuis 2011 en fait. Entre la rencontre, on a commencé à faire un premier travail de plateau pour voir un petit peu ce qu'on allait faire, à malaxer un peu la matière textuelle, les corps, etc. Ensuite, il faut monter la production, chercher les partenaires, etc., etc. Et puis, cette année, on a décidé de faire deux grosses sessions de travail où on fait avancer la recherche. On a fait une période en octobre à la Maison Folie de Moulins. On a préparé un petit peu, je dirais, 10 minutes de ce que ça va être un peu le spectacle pour que nos partenaires aient un peu une idée de ce que ça va donner. Et puis là, on fait un travail de 15 jours sur le texte plus spécifiquement, quoi. Et donc la création. Donc vous voyez, ce projet-là, il dure 2 ans. Il y a des fois des projets qui durent, c'est plus court. Après, concrètement, en jours de travail, là, il y a eu 2 sessions de cette année de 15 jours. Et au moment de la création, il y a 6 semaines de répétition de prévues. Voilà, pour les créations.
Moi, je voulais savoir votre projet, enfin, ce que vous avez déjà diffusé par rapport aux textes qui ont été récités. Est-ce que c'est en lien avec la Journée internationale de la femme et que pensez-vous de cette journée?
Question piège. Ça n'a pas du tout un lien avec la Journée internationale de la femme. En fait, c'est parce que depuis création de la compagnie. C'est un peu le thème récurrent, je dirais, de mon travail, de se questionner sur... ou en tout cas de questionner sur la place de la femme, en particulier des femmes artistes, enfin, plus directement. Ou voilà, c'est comment être une femme dans une société. Enfin, moi, j'ai travaillé sur un texte de Philippe Mignana. Là-dessus, j'ai travaillé sur des textes d'Alan Bennett. Enfin, c'est vrai que c'est un thème qui m'est cher et que je... Là, par exemple, les trois femmes dont je parle dans le spectacle, ce sont des femmes... J'ai lu leurs écrits depuis très longtemps, je me suis intéressée à leur destin, à ce qu'elles font, parce que c'est quelque chose qui me nourrit, en fait, moi, dans ma recherche, dans ma vie même, en fait. Et donc voilà pourquoi le spectacle, il est né plutôt de ça que de la journée de la femme, en fait. Je pense que c'est gentil de nous donner une journée, c'est bien.
Vous auriez pu parler aussi de Simone de Beauvoir aussi, qui a défendu la cause féminine.
Oui, 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 bien sûr, j'aurais pu. Effectivement, il y a plein d'autres femmes. J'aurais pu choisir plein d'autres femmes, mais c'est particulier. Simone de Beauvoir, elle a défendu la cause féminine. En fait, là, les trois auteurs, moi, que j'ai prises, je les ai pris parce que toutes les trois, elles ont un parallèle, et puis elles défendent pas directement la cause féministe, en fait. C'est plus qu'un spectacle féministe, au sens où c'est défendre la place de la femme, mais pas que ça. C'est aussi la place de tout le monde, en fait. C'est pas parce qu'on est... Elles nous disent qu'il faut laisser personne choisir à notre place, que c'est nous qui pouvons choisir notre vie. Je pense que ça concerne les femmes, mais ça concerne aussi les hommes. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est que leur parcours, leur destin, en soi, c'est un plaidoyer pour la liberté de la femme. Mais... Bon, il y en a une qui a milité pour ça, il y en a une qui est militante syndicaliste et qui a milité au début du XXe siècle pour la contraception, pour l'homosexualité, enfin des choses qui, à l'époque, quand on parlait de ça, dire le mot, déjà, on allait en prison, quoi. Enfin, je veux dire, il faut quand même replacer dans le contexte, quoi. Et donc, voilà, donc elle se battait aussi pour l'émancipation, mais peut-être moins directement. J'avais pas forcément envie de travailler sur des femmes qui ont... travailler directement sur l'émancipation. C'est un autre sujet, c'est un autre...
Pensez-vous que la condition de la femme artiste ait été marginalisée? Enfin, la femme soit marginalisée en tant qu'artiste, quoi.
Marginalisée en tant qu'artiste, bah, c'est-à-dire que je pense que, un petit peu comme partout, c'est difficile de faire sa place quand on est une femme dans le monde du travail, quoi. Et du travail artistique, moi je trouve que c'est pas plus facile que dans un autre endroit. Voilà. Je pense que je sais pas si je réponds à la question.
moi ce qui m'embête dans un lieu comme Roubaix, notamment le danger que je vois dans votre travail sur Roubaix, la ville de Roubaix, c'est que Roubaix c'est une ville. On parle beaucoup du passé ouvrier, mais j'ai pas envie d'être un dinosaure culturellement. Rester dans le passé ouvrier et se lamenter. Moi, Roubaix, j'en ai marre de ça et je voudrais que Roubaix se projette dans l'avenir et notamment qu'il y ait des spectacles, quel que soit le sujet, projette Roubaix dans l'avenir. Et notamment le féminisme, pourquoi pas le féminisme? Et deuxième question, et pourquoi pas y mettre de la science-fiction à Roubaix? Pour être caricatural. Et deuxième question, par rapport au problème de la femme, que pensez-vous, vous qui travaillez plutôt, qui avez fait plutôt une sensibilité de gauche d'après les portraits que j'ai vus, de films qui sont a priori pas féministes, mais moi que je trouve très féministes, Et Dieu créa la femme, avec Brigitte Bardot, de Roche du Vadim, oui, qui date de 1958. Et le deuxième film, c'est Barbarella, avec Jane Fonda.
D'accord. Alors c'est très compliqué pour moi de répondre aux questions, parce que j'ai vu Et Dieu créa la femme il y a très longtemps. Et dans ce film-là, il y a toute l'image qu'il y a de Bardot, de la femme jolie, etc. J'ai pas vu l'autre film. Je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'elle propose comme image de la femme. Mais je dirais que, quelle que soit l'image qui est proposée, ce qui est important, c'est pourquoi j'ai choisi ces trois auteurs-là, c'est parce qu'elles sortent des images, quelle qu'elle soit. Je veux dire, à chaque époque, à chaque moment, à chaque ville, on est enfermé, mais pas que les femmes, hein. C'est-à-dire, on est enfermé dans des images, parce que c'est un film, parce que c'est une mode, parce que, il y a toujours plein de raisons pour ça. Elles, ce qu'elles disent, c'est ça qui m'intéresse chez elles, et ce que j'ai envie de porter, moi, c'est que elles sont libres, ces femmes-là. Elles vont aller loin pour ça. C'est-à-dire qu'elles vont aller contre tous et contre tout, quoi, pour faire ce qu'elles croient juste pour elles et pour les autres. Et c'est ça que j'ai envie de porter, en fait. Et c'est pas une image. On est au-delà d'une image. On est dans le fait d'être libre de choisir sa vie. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'on est tous libres de choisir, de faire des choix dans sa vie, quoi. Et elle les essaie de par tous les moyens. Et pourtant, pour elle, ça n'a pas été facile. Je vous jure que une des trois auteurs, Marina Tchetaeva, est quand même, elle s'est suicidée, elle s'est pendue parce qu'elle était vraiment, sa vie était très très difficile. Bon, je veux dire, c'est pas rien leur choix. Je veux dire, c'est pas Emma Goldman a fait de la prison la moitié de sa vie. Enfin, je veux dire, elles vont au bout de ce qu'elles pensent, quoi. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est ça.
Mais justement, à quel prix ? Parce que là, par rapport aux exemples que vous venez de donner, ça a un prix quand même. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout ? C'est quoi la limite ?
Ben ça, je crois que moi, j'ai pas la réponse. Elle non plus, parce que je crois que la réponse, elle est en chacun. Je crois que c'est à chacun de savoir qu'est-ce qui vaut le coup de payer quel prix. Moi, je pense que... Mais c'est la question que pose le spectacle aussi. Enfin, c'est une des questions qui est posée dans le spectacle aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vaut le coup ? Enfin, c'est tout ce questionnement qu'elles ont, elles, qui, moi, m'intéresse. C'est les moments où elles doutent, les moments où elles se disent, voilà, je dois quitter, elle doit tout quitter pour ça, je dois être... voilà. Et bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ? Je pense que la réponse, elle est en chacun. Enfin, on peut pas donner la réponse comme ça, pour tout le monde, ou d'une manière générale.
En tout cas, j'ai vu trois faits concrets. Voilà, c'est bien avoir des faits concrets qui ont existé et qui existent et qui montrent qu'il y a un lien entre la poésie de la vie et la réalité. Voilà.
Merci. Voilà.
Ben, ce sera le mot de la fin sur cette interview. Tard, en plus, tu as déjà été très désinvolte tout à l'heure. Hein, les dates. Alors, les dates du spectacle, s'il vous plaît.
Alors, le spectacle sera créé au mois de janvier 2014 au Théâtre Massenet à Fives, donc fin janvier. Pas les dates exactes.
C'est un FIV, le théâtre.
Théâtre Massenet, ouais.
Donc voilà.
Ouais. Ensuite, il sera joué à la Maison Folie de Moulins.
Voilà, donc notez ça dans vos agendas. En tout cas, pour notre part, on va vous remercier d'être venu ici dans le studio des Entonnoirs et de nous avoir accordé ces quelques minutes pour nous expliquer votre travail et vos réflexions
Merci.
Sur le féminisme. Et voilà, donc là, Olivia, la suite du programme qui est. Eh ben, je vais le faire tout seul, c'est une pause musicale. Alors. Il est où, Ahmed ? Il est là.
En fait, c'est un petit voyage en indien, enfin en Inde. C'est M Horizon, c'est Remember to Tomorrow. En fait, c'est une inspiration Ravi Shankar, George Harrison, avec de la sitar, et c'est du groove. Voilà, ça va changer un peu.
entonnoir.
La parenthèse du jour avec Roger Lucien.
Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, je vais vous lire quelques extraits d'une revue mensuelle intitulée Afrique Magazine. Donc, les extraits en question concernent l'histoire. Et ce pan de l'histoire est intitulé « Quand l'Afrique libérait la France ». Donc on va procéder comme d'habitude. Je vais lire les extraits et je vais faire un commentaire. Et à la suite de ce commentaire, je vais vous demander de réagir. L'Afrique est la grande oubliée de la Seconde Guerre mondiale. On ne retient le plus souvent que le débarquement des Alliés en Normandie en juin 1944. L'appel du général de Gaulle depuis Londres ou le rôle joué par les résistants français. On oublie qu'entre 1939 et 1945, tout comme pendant la Grande Guerre 14-18, la France a largement fait appel à son empire, notamment à ses colonies africaines. C'est en effet à partir de l'Afrique que sera créée la première armée française qui, avec l'aide des alliés américains et britanniques, jouera un rôle décisif dans la victoire sur les Allemands. Confirme Claude Collin du Bocage. Un ancien combattant, président de l'association Rhin et Danube, ancien de la première armée française.
C'est quelle guerre? Première ou deuxième guerre, ça? C'est la deuxième?
C'est la partie qui concerne plutôt la Seconde Guerre mondiale. Quoi.
D'accord.
Donc, j'ai pas fini. Et donc, je lis la suite. La participation du continent ne se limitera pas à fournir de la chair à canon. En France, des soldats africains dispersés après l'armistice de juin 1940 n'hésiteront pas à s'engager dans les réseaux de résistance auprès des Français, déclare Camion. En outre, les colonies participent largement à l'effort de guerre sur le plan économique et financier. À Brazzaville, les petits tailleurs étaient mobilisés pour coudre les tenues militaires. Le riche Congo belge est aussi sollicité. Huile de palme, étain, cuivre et uranium du Haut-Katanga serviront à la fabrication des obus et autres matériels, précise l'historien Isidore Dewell. Ces soldats en provenance d'Afrique qui sont venus libérer la France contre l'Allemagne à l'époque provenaient de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest et en fait l'espace francophone de l'Afrique, les anciennes colonies françaises. Et je pense que les nations honorent leurs héros. Et il se trouve que ces soldats n'ont pas été suffisamment honorés, je pense, parce que leur aide à la libération de la France n'a pas été médiatisée, tout au moins comme le débarquement des Américains en Normandie et le débarquement anglais sur les plages de la Manche. Et je pense aussi qu'au niveau des pensions, les soldats, les anciens soldats de la Seconde Guerre mondiale touchent moins, ont un solde bien inférieur aux soldats de France, les Français dessous, si je peux m'exprimer, les appeler comme ça. C'est la raison pour laquelle je tenais absolument à en parler. Voilà. En fait, j'aimerais aussi rappeler que pendant le défilé de la libération sur les Champs-Élysées, très peu de soldats en provenance d'Afrique qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale ont défilé. C'est plutôt des soldats en provenance, enfin, de France. et puis quelques Américains qui ont défilé, et puis les soldats des ex-colonies étaient très peu représentés durant ce défilé. Donc je tenais aussi à le dire.
Vous avez tout à fait raison sur une partie du contenu, et depuis le film Indigène, il y a eu quand même, on a rétabli quand même des pensions, notamment, et on a reconnu aussi tous ces gens, effectivement ces personnes qui ont combattu pour la France et qui étaient français aussi, n'oublions pas. Hein. Oui. Il y avait quand même des colonies françaises, donc ils étaient français.
Non, Bruno.
Oui, par rapport à ça, le seul fait d'armes qui est vraiment, c'est Monte Cassino. On a beaucoup parlé des, je crois que c'était des Nord-Africains, Algériens, Marocains, en première ligne, qui ont eu plein de morts par rapport pour reprendre le monastère de Monte Cassino qui était fortement bombardé. Cette bataille a été horrible. Enfin, voilà, bon. Et deuxièmement, par rapport, moi, je me rappelle, j'ai eu un reportage de la propagande nazie sur l'armée française, qui est passée sur quelle chaîne, et il présentait d'une manière affreuse raciste l'armée française. Par exemple, dire que devenue la grande armée française, on voyait un nord-africain qui ressemble plus ou moins à un juif, vous voyez le genre, quoi, le nez, enfin, le type sémite, quoi, vous voyez. Donc, la propagande nazie, quoi, voilà, quoi. Pour montrer que, voilà, c'était, pour montrer que l'armée française avait dégénéré. Puis après, on voyait, comment dire, un noir, les nazis le présentaient un peu comme une bête, quoi, voilà, quoi. Donc, c'était affreux, mais il tenait à montrer quand même ce que c'était que la propagande nazie, voilà.
Et en fait, ça servait de faction en quelque sorte, là, les troupes armées africaines, que ce soit du nord ou plus au sud. Mais c'est l'armée de Gaulle qui a été attaquée par l'armée de MacArthur à l'époque, général MacArthur, et attaquée en. Les Américains et les Français se tapaient entre eux. Ouais. Ils lisaient un peu de côté les. Voilà. Problème africain. Il y a eu l'Africa Corps, mais après il y a eu des combats entre Américains et Français. Et après ils ont trouvé un accord de paix. Et puis maintenant, et puis après ouais. Bon, ils ont combattu l'un avec l'autre.
Ouais, ils n'ont pas combattu entre eux, mais il y a eu des désaccords, voilà, au sein des états-majors possibles. Mais il n'y a pas eu de tuerie entre Français et Américains, c'est évident.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que tu faisais bien de le rappeler, Roger Lucien, c'est que les soldats africains. Et quand on dit africain, ça va de l'Afrique, toute l'Afrique, même au Maghreb, même les Maghrébins, tu peux rappeler le Monte Cassino, eh ben ils étaient utilisés comme chair à canon. C'était eux qui étaient en avant-poste, et donc on les laissait aller en avant-poste, ils recevaient les obus, etc. Donc il faut pas oublier que c'était de la chair à canon, c'était de la boucherie, quoi.
Et je tiens aussi à rappeler que les soldats en provenance du continent africain ont été confrontés à un très grave problème, c'est le climat. Pendant l'hiver, beaucoup ne connaissaient pas l'hiver, donc ils ont été confrontés à l'hiver pour la première fois, et c'était très très difficile pour eux qui étaient en première ligne.
C'est exactement ce qui se passait avec les Allemands qui allaient en Russie. Ils mouraient de froid en fait. Hein. Et c'est pas vraiment la même chose, mais ils tenaient pas, puisque en plus de ça, les Russes étaient habitués à ce froid en fait, et ils étaient dans des espèces de galeries souterraines et tout, donc ils n'étaient pas trop exposés au froid. Voilà, et peut-être que, enfin, c'est un parallèle à faire avec les Africains qui arrivent en France l'hiver, enfin, tu vois, c'est. Voilà, de ce que je sais un peu.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'avais vu un reportage sur des anciens soldats africains. Et ils parlaient de leurs problèmes de pension. Ils disaient, nous, notre pension, elle n'a pas été revalorisée. Ils disaient, nous, on touche moins. C'était un reportage sur une grande chaîne nationale. Ils disaient, nous, on touche moins. On touche 4 ou 5 fois moins qu'un soldat français au niveau de nos pensions. Alors, ils disent, nous, on est français, on a la nationalité française. Pourquoi?
Moi, je voulais réagir parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, lors de l'annonce de la libération en 45, le 11 novembre, parce qu'on fait tous les ans, il y a eu Sétif. Il y a eu Sétif, donc il y a eu des révoltes à Sétif. Donc le peuple algérien s'est senti un peu libéré avec la France qui était libérée. Donc se sentait un peu des velléités d'indépendance. Et donc il y a eu un massacre de plus de 10 000 Algériens.
45 000,
c'est encore plus que je pensais. Hein. À Sétif, bombardé par la même française. Donc voilà. Donc le sujet que tu ressors, il n'est pas si innocent que ça. Hein. Et puis c'est bien d'en parler parce que on suit pas toute la politique et tout ce qui se passe. Et puis les livres d'histoire n'indiquent pas tout.
Merci. Merci.
Bon, la suite.
Pour la suite, nous allons passer au poème de Bruno.
Oui, donc je souffre de problèmes de troubles bipolaires et comme il fait froid, je souffre doublement. Bah oui, donc j'ai une crise aiguë à cause de cette souffrance double. Donc le titre du poème, heureusement j'ai réussi à le mettre sur papier, ça s'appelle « Crise aiguë ». Dans une crise aiguë de ma maladie, je vois ma ville assaillie par des espions qui viennent de partout, et même de la folie. Et quelqu'un comme Brahim, à la chronique de l'avenir et futur, à l'émission de radio Les Entonnoirs, les a vus aussi. En tout cas, il me l'a garanti. Ainsi, à Grande Roubaisienne, Caroline Carson a dévoré des nouilles et du porc à la quai dans une ressource chinoise en compagnie de Bruce Lee qui s'intéresse de près aux pédalos verts du bol d'air. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'un FSB s'infiltre un instant, très noir dans mes pensées, quand j'imagine mon infirmière Blandine, très sobre dans ses habitudes, s'enfiler de la vodka russe chez elle, tranquillement devant la télé, alors que son collègue Frédéric ouvert à tout, curieusement d'un coup, écoute chez lui en bouclé à tue-tête Casse-noisette de Tchaïkovski. Mais heureusement pour moi, ma chapka est un poil de castor polonais qui, en me tenant chaud à la tête, est apte à bloquer tout ce qui vient de Russie. Et en plus, je peux compter, quand je registre, sur Roger Lucien qui connaît les ondes de sorciers camerounais qui seraient prêts à m'aider. Et puis, d'après ce que j'ai compris, n'oublions pas qu'il y a Ahmed qui, en soignant de choc, est en contact avec la police de l'espace, car il s'agit d'être comme Superman le plus fort. N'empêche que Brahim, en vrai musulman roubaisien, car homme athée, bah c'est évident, pouvant également déguster du bon café grand-mère à tout moment, m'a énoncé, insistant en pure amitié, que le prix du Piccadilly Heinz ne devait pas augmenter, car si même la crise est aiguë, dans l'islam radical, on aime bien rigoler avec les rites les plus variés. Et tout de suite, je lui ai répondu que, comme la maison mère est aux États-Unis, il faut sauter sur l'occasion, prétextant une opération marketing, pour interviewer la femme toujours en pointe, qui est Caroline Carson. Elle pourrait venir pour tout simplement dire qu'au Ballet du Nord, on danse avec deux jambes, dans l'art expérimental de son esprit et de son corps. Elle serait accompagnée de son diététicien chinois Bruce Lee, qui, dans la ligne du parti, et donc des partis, vanterait à l'antenne les joies du pédalo. Mais comme une crise aiguë est persistante, je suis allé trouver Blandine au CMP. Tout de suite, elle m'a rassuré, en rien bourré, et donc en rien travaillé par le FSB.
Merci, Bruno. Oh, non. Merci.
Enfin, donc, j'ai chié pour mettre ça sur papier, mais voilà.
Moi, j'ai dit, il a parlé de nous parce qu'il nous aide bien, voilà.
Vous êtes nos congénères.
Ouais, écoutez, vous avez été ma bouée de sauvetage, c'est évident.
Vous êtes nos congénères.
Surtout toi, partez vos conseils sur le Picalian, c'est évident.
Allez, viens. Bienvenue dans le coffre à vinyle. Alors bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Je vais vous parler de la biographie, la discographie de Lionel Richie. Alors Lionel Richie, de son vrai nom, Lionel Brockman Richie Jr., né le 20 juin 1949 à Tuskegee, en Alabama. Donc c'est un chanteur soul américain qui a commencé sa carrière en 80 pile. Après avoir travaillé avec les Jackson 5 un peu avant. Donc il a vendu en tout, il a réussi à vendre 100 millions de disques à travers le monde, puisqu'il chante en solo. Donc c'est un chanteur de soul. Et en 84, il y a une grande date, c'est lors des Jeux Olympiques de 84 à Los Angeles. Il faut savoir que Lionel Richie a pris la place de Michael Jackson, parce que tous les Américains l'adoraient, et puis ils pensaient que ça allait être lui qui allait clore cette manifestation, les JO. En 85, il a chanté We Are The World, vous souvenez, hein, on la connaît par cœur souvent, l'air souvent. Et il a fait ça avec Michael Jackson pour lutter contre la famine en Afrique. D'ailleurs, ça a été repris un peu plus tard en 2010. Et ça, ils ont gagné, donc ces associations ont eu assez d'argent pour lutter contre ça. Ensuite, il y a eu des récompenses. Alors d'abord, il a eu droit à 10 American Awards, juste pour sa musique, un Golden Globe et 6 People's Choice Awards. Et indépendamment de ça, il perd son père meurt en 90, donc c'est moche, quoi. Voilà. Et en 92, il a sorti l'un de ses albums qui est Back to Front, et je vais vous faire écouter un morceau de Hello, donc Back to Front. 92. À toi, Ben, balance. Merci Ben, c'est ton grand retour et merci encore. Alors, je vais vous parler du clip. En fait, le clip de Hello, c'est un jeune école, ou un lycée ou une fac, et il est dans un amphithéâtre, et il voit une vie qui lui plaît, donc il va vers elle. À un moment, puis à un moment donné, il se met à chanter. Il la suit partout et tout, voit les couloirs, machin. Et on voit à la fin de la scène, on voit la fille qui est sur son lit, c'est son lit avec le téléphone près d'elle. Et elle décroche, et puis on entend Johnny Ritchie chanter au téléphone, en fait. Il chante à travers le téléphone, c'est assez, faut aimer, quoi. J'accroche moyen au clip, mais j'aime beaucoup sa musique. Le clip a été mal choisi, quoi. Sinon, ça va. Merci.
Nous allons reprendre tout de suite avec Johan pour la chronique santé, les lobbies pharmaceutiques.
C'est l'heure des médicaments. Médicaments.
C'est surtout l'heure de la chronique santé de Margot.
Bon, comme vous l'aurez compris, c'est pas Margot aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour passer un coucou à Margot. Et on espère la revoir bientôt là au studio. Et on lui fait plein de bisous. Donc Margot, si tu nous entends aujourd'hui, c'est moi qui fais ta chronique santé. Donc pour ma chronique santé, j'ai eu envie de vous parler du documentaire reportage qui était passé vendredi dernier, donc sur France 2 vers 22h20. En fait, c'est l'émission Les Infiltrés. Alors, est-ce que entre vous connaissez le concept de cette émission Les Infiltrés, qui était présentée par Pujadas l'année dernière et cette année par Marie Drucker? Qui est-ce qui se dévoue pour qui connaît, qui va en parler rapidement?
On dénonce, en fait.
Voilà. C'est des journalistes qui s'infiltrent, en fait, qui vont filmer en caméra cachée, voilà, dans des milieux souvent pas trop mis au jour. Comme par exemple, je sais qu'il y avait eu les infiltrés sur la pédophilie, les infiltrés sur l'extrême droite. Il y en avait eu d'autres. Il y avait eu aussi dans les maisons de retraite. Oui. Ils avaient filmé en caméra cachée pour montrer les mauvais traitements dans les maisons de retraite. Donc là, ils ont eu une idée, en fait. Le principe, on reviendra dessus. Donc là, ils ont eu l'idée, en fait, d'envoyer deux équipes en caméra cachée, en se faisant passer pour des stagiaires, donc dans un laboratoire pharmaceutique dont on n'a pas le nom, et donc ils ont envoyé des équipes dans le laboratoire au service marketing, et aussi ils ont envoyé des journalistes interviewer des visiteurs médicaux, tout ça. Donc ça fait un reportage assez intéressant qui s'appelle précisément les laboratoires pharmaceutiques, un lobby en pleine santé. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un lobby? Un lobby, L-O-B-B-Y.
Je crois que le lobby, c'est ce qui a tué vraiment exterminé la République française. C'est des groupes de pression, d'où qu'ils viennent, de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui font pression et qui freinent ou qui empêchent le débat démocratique dans un pays. Enfin, tout simplement ça. C'est par le fric, par la religion, par des pressions politiques affreuses. Enfin, on peut tout imaginer, quoi. Et moi, pour venir, caméra cachée, c'est normal qu'il y ait des caméras cachées parce qu'on enquête sur une industrie plus pharmaceutique.
Mais d'ailleurs, moi, je peux raconter une petite anecdote. Je peux raconter une petite anecdote des entonnoirs. On peut fréquenter des gens des laboratoires. Je sais qu'on a rencontré quelqu'un d'un laboratoire qu'on fréquente, je vais pas le citer. Et en fait, une fois, je lui ai dit, est-ce que je pourrais vous interviewer et tout, j'ai des questions à vous poser et tout. Il fait non, moi je peux pas, j'ai un devoir de réserve et tout. Et donc c'est pour ça un peu qu'ils ont été en caméra cachée. Et c'est vrai que c'est un milieu très très fermé. Et donc en fait dans ce reportage plus le débat qui est après, ils essayent de répondre à la question pourquoi des médicaments inutiles voire dangereux arrivent sur le marché en France. Comment ils y arrivent? Pourquoi sont-ils systématiquement remboursés par la sécurité sociale alors que des fois on le sait des années avant que c'est pas efficace. Vas-y, Brahim, tu me troubles là, lever le doigt. Tu viens de dehors, t'as pas suivi, mais t'as quelque chose à dire.
Moi, j'ai passé les médicaments, il nous faut pour nous, parce que sans médicaments, comment tu vas faire pour vivre? Comment tu vas soigner? Il y a des médecins tout partout, dans les rues, sur Roubaix, tout ça, c'est tout partout. Moi, je dis, on va sur un massage pour le dos, mange te masse, après, dans le lendemain, t'as plus mal.
Donc en fait, donc c'est un reportage. Donc pour être précis, donc vous pouvez retrouver ce reportage sur internet. Donc c'est un reportage d'1h05 et derrière il y a un débat de 55 minutes. Et en fait, dans ce documentaire, il y a quand même des choses assez impressionnantes, comme par exemple le concept de malade captif, en fait, pour désigner les malades en fait qui prendront un traitement à vie. Alors voilà, on voit aussi le problème en fait de la presse médicale, qui est en fait 100% contrôlé, enfin presque tout le temps contrôlé par les laboratoires, sauf pour la revue Prescrire. On voit des interviews du président de la revue Prescrire. Je sais pas si vous connaissez la revue Prescrire. C'est une revue médicale indépendante, en fait, qui est totalement indépendante des laboratoires et des puissances financières. Donc, ils sont totalement libres, en fait, indépendants. Et voilà, donc on voit aussi dans ce reportage l'univers des visiteurs médicaux. Alors, c'est un univers qu'on connaît très peu, hein, en fait. Et enfin, c'est des choses quand même assez hallucinantes. Par exemple, on voit que les visiteurs médicaux, ils disent que ouais, ben en fait, ils doivent inviter les médecins. Faut que les médecins ils prescrivent. Puis dans le documentaire, on voit comment ils font pour en fait annihiler la liberté de prescription des médecins. C'est un système en fait en plusieurs. C'est un coup en plusieurs bandes. J'ai envie de dire comme au billard. Enfin, c'est vraiment bien montré dans ce documentaire. Donc là, la radio, en 10 minutes, c'est pas facile de tout faire ressortir. Mais je vous conseille de chercher sur Internet. C'est facilement trouvable en streaming. Donc c'est Les Infiltrés, les laboratoires pharmaceutiques, un lobby en pleine santé. Et Bruno, tu lèves la main. Donc, vas-y.
Vite fait, il y a peut-être 15-20 jours, j'ai écouté sur France Inter l'après-midi, quelqu'un parlait, le cholestérol, finalement, tout le monde a le cholestérol, et finalement, c'est pas si grave que ça. Mais finalement, on a décidé d'en faire une maladie, parce que justement, bah, pour mettre sur les marchés des plats de médicaments.
Mais si tu te souviens, on en avait déjà parlé avec Margot, quand on avait fait justement sur le bouquin du professeur Evin.
Je dis pas de conneries quand je dis ça.
Non, on en avait parlé justement, j'avais réécouté le débat chez moi plus tard, et on s'était rendu compte qu'en fait, on savait pas exactement si au final le cholestérol c'était dangereux ou pas. Et là, apparemment, et donc le professeur Evin, qui est, je crois, qui est président de l'Institut Necker, quelque chose comme ça, est en train d'écrire, sortir un bouquin qui s'appelle La vérité sur le cholestérol. En tout cas, voilà, moi je me rends compte, et après je te donne la parole tard, je me rends compte que je suis un ultra anti-labo. Mais est-ce que. Enfin, voilà. Enfin, moi je suis totalement opposé au laboratoire, parce qu'en fait, moi personnellement, là, ce que je ressens personnellement, c'est que je ressens que je suis obligé, sans mon consentement, à prendre un traitement. C'est ce que je ressens. Vous êtes peut-être pas d'accord, mais c'est ce que je ressens. Et enfin, je trouve que c'est on a trop confiance au laboratoire. Et à un moment ce reportage, au début du débat, il y a Irène Frachon qui est invitée pendant le débat, donc pour réagir au reportage, et elle dit cette phrase, et je finirai avec cette phrase. Elle fait c'est un reportage qu'on devrait faire voir dans les écoles de soignants, de médecins, tout ça, parce que c'est vraiment bien montré l'univers des laboratoires, qui est pas là pour soigner absolument les gens, mais pour soigner des gens qui sont malades toute leur vie et vendre le plus de boîtes de médicaments possible. D'après ce que j'ai retiré.
Oui, moi j'ai terminé la mission en disant vaut mieux être anti-labo que collabo. Voilà.
Et moi je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des révélations justement sur les pratiques des laboratoires qui seraient pas très orthodoxes?
Je te renvoie au documentaire. Parce que oui, bon, après c'est à chacun d'interpréter. Après moi j'interprète de cette façon-là. J'ai peut-être tort. Moi ce système-là, j'ai aucun intérêt dans ce système-là. Donc c'est sûr que je vais pas avoir d'intérêt à le défendre non plus. Donc voilà, donc j'ai peut-être tort.
Pour finir, moi, je voudrais quand même dire que les laboratoires sont quand même nos partenaires. Hein. C'est quand même eux qui créent les médicaments qu'on consomme tous, hein, que ce soit des dafalgan. Moi, ça marche quand j'ai mal à la tête. Je comprends qu'il y a une logique commerciale derrière, que eux, ils ont une logique commerciale de vouloir vendre les choses. Mais je pense que ce sont aux médecins de faire la part des choses. Je pense qu'ils ont fait les études et qu'ils peuvent faire la part des choses. Et quant au reportage, j'en suis friand aussi, hein, des reportages spéciales, les infiltrés, spéciales investigations. Mais il faut savoir que c'est des reportages à charge et que, au final, c'est pas partial, en fait. Mais ce qui est relevé dans le reportage est quand même relevé. Et il faut le prendre en compte, faut pas non plus le...
C'est la manière, hein, qui est tout à fait désobligeante, je trouve. Caméra cachée, enfin, je trouve que c'est pas honnête.
Et ben,
la façon dont ils filment.
Pour agir sur ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'on peut bidonner facilement en faisant du floutage. Et moi, ce que tu dis, moi, je suis pour que les laboratoires, enfin, les médicaments, tout ça, ça soit géré hors de la sphère économique concurrentielle, en fait. Parce que moi, je prends des traitements, on me dit que je dois prendre un traitement à vie, mais j'ai pas forcément envie d'être un marché.
D'accord, ça à ton médecin de gérer ça.
Et là, on va passer à la suite.
Alors la suite,
une petite actu sur...
Sur les immolations.
Qui ont lieu en France. Donc quelqu'un veut en parler? Vas-y, tard.
Pas moi, il y a une petite histoire dont j'ai entendu parler, c'est qu'il y a une personne qui s'est immolée devant Pôle emploi, c'est bien ça, Johan?
À Nantes.
Elle est en fin de droit, je pense, c'est pour ça qu'elle s'est immolée.
Et donc, c'est moi qui proposais d'en parler ce matin de ça pendant l'émission, parce que c'est quand même grave quoi, qu'en France, enfin on dit toujours en France, on n'est pas touché par la crise, on est bien en France, mais en France, il y a quand même des gens qui prennent de l'essence, qui s'arrosent avec de l'essence, qui allument un briquet et qui se foutent le feu. Donc voilà, c'est quand même assez symbolique pour voir que là, il y a quelque chose, peut-être, on a peut-être passé un palier dans la crise et dans tout ça, non?
Ben, je crois que il y a le syndrome tunisien, c'est là parce qu'il y a c'est quelqu'un qui c'est un jeune marchand de fruits et de légumes en Tunisie qui s'est immolé par le feu, 28 ans, un jeune homme, que finalement c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en Tunisie, ça a déclenché la révolution. Enfin, je dis pas de bêtises quoi.
Je pense que c'est un événement spectaculaire, mais faut pas oublier que derrière il y en a d'autres qui meurent en silence sans s'immoler. Et effectivement, c'est parce que c'est le caractère spectaculaire qui nous fait réagir. Ce qui s'est passé, c'était dans un ex-pays de l'Est.
Oui, Yann Palache en 69. Et puis après, il y a aussi les bons vietnamiens aussi.
Et ça, on s'en souvient.
Oui.
Mais en même temps, derrière, il y en avait plein qui mouraient en prison, non, en silence. Donc voilà, c'est le caractère spectaculaire qui nous fait qu'effectivement, on réagit.
Et en tout cas, donc, il y a aussi eu un cas d'immolation par le feu en Espagne. Je pense que ça, c'est encore plus récent qu'à Nantes. Donc c'est une mère de 3 enfants, si mes informations et mes souvenirs sont justes, qui s'est immolée en fait dans une banque, parce que d'après ce que j'ai compris en fait elle était endettée, et donc elle s'est immolée, mère de 3 enfants. Et on a vu sur internet des photos de pompiers avec des banderoles qui disaient nous voulons sauver les personnes et pas les banques.
Non, moi je voulais juste dire que tout ce qui se passe qu'on voit à la télé, ces immolations. Moi, je pense qu'un autre monde est possible, où les gens souffriraient moins, où les riches seraient un petit peu moins riches, en donnant un petit peu plus aux pauvres, et où le riche exploiterait peut-être un peu moins le travailleur, le salarié, et il y aurait peut-être un plus grand équilibre entre la vie des hommes.
Voilà. Ce sera la conclusion. Et donc je me tourne vers Olivia qui présente l'émission, qui va nous annoncer la dernière chronique de cette émission.
Ça sera la chronique de Brahim, la chronique cinéma.
Cinéma ! Cinéma de Chalantal ! Film en film, je vais te donner mon existence. Écoutez-moi, cinéma !
Bon, cher éditeur, cher éditrice, je vais parler du cinéma. C'est un film policier. Il y avait Gilbert, il l'a vu, et Bruno l'a vu. Bruno, qu'est-ce que t'en penses du film? Même on l'a vu du policier. C'est un film d'Amérique, parce qu'il y avait des problèmes de pognon. C'était un acteur, il faisait des, comment on dit, ils vendaient en camionnette de la drogue. C'est Ghost One.
Gangster.
Oui, ce film, ça a été un très bon divertissement. Le nom du méchant Cahier de la Pègre, j'ai oublié, c'est un excellent acteur dont j'ai oublié le nom, mais vraiment, il était horrible dans le film, il a vraiment un très beau rôle. Et c'est un épisode de la guerre des Américains contre les truands, quoi. Et ça se passe, comment dire, une ville qui a pas tellement été touchée par la mafia, finalement, d'après ce que j'ai compris, c'est Los Angeles. Voilà, donc, on apprend des choses, quoi. Alors que Chicago et New York, la mafia s'était vraiment incrustée, d'après ce que j'ai compris, à la fin du film, dans le commentaire, ils disent que la mafia, en 49, elle a dû dégager, quoi. Il y a des choses bizarres. L'Amérique, à des moments, c'est un pays très méconnu parce que on croit connaître tout l'Amérique et puis il y a des trucs qu'on découvre, comme dans chaque pays d'ailleurs, voilà. Par rapport à la France, par rapport. Voilà.
Et Gilbert, toi aussi, tu as vu le film?
Alors, c'est un gangster, il s'appelait Monsieur Cohen, il fallait l'appeler Monsieur Cohen. Et sa force, c'est parce qu'il y avait les syndicats ouvriers derrière lui, plusieurs dizaines de millions de. Et plus la police avec lui, parce que la police, elle craint les syndicats. Pour finir, le policier, il n'a pas protégé. Alors, il commence à frapper le policier de toutes ses forces. Alors la police, elle décide à réagir quand même. Alors ils encerclent sa maison, ils disent rendez-vous. Il y a une bagarre générale. Et à la fin, le policier, il dit démolit Cohen avec un match de boxe. Et ça finit comme ça.
Faut pas en trop en dire, hein. Le suspense pour les gens.
Mise en attente.
Et en plus, il y avait Asterix et Sa Majesté, ils sont au cinéma. Il y aura Bully Bill. Bully Bill, c'est un film. Ça va que son chien et Billy voulait adopter le chien. Donc il y a voilà.
Et Pinocchio.
Et Pinocchio, voilà.
C'est toute mon enfance.
Ouais. Et sinon, il y a aussi bientôt. Une émission la semaine prochaine, on se retrouvera la semaine prochaine. Parce par que exemple, là, cette émission de cette semaine, eh ben, elle est finie.
Bon, bah salut.
Au revoir. Au revoir. Bye.
Merci pour votre attention.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Parce que c'est des entonnoirs, parce que j'ai une autre plus fou dans la tête, et ça gratte des poux sur ma tête, et je viens plus fou, c'est ça les entonnoirs.